7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est aux jeunes patrons de l'Afrique qui gagne ou ceux qui en rêvent. Si vous êtes dans la jeune génération des diplômés, que vous avez mûrement réfléchi à un projet business ou humanitaire ou culturel et que vous vous heurtez à certaines difficultés, vous avez la parole. Comme chaque mois, nous avons la visite du coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Didier, comme chaque mois, vous analysez les projets. Vous répondez aux questions des jeunes, surtout vous évaluez les chances de réussite des projets et bien sûr vous donnez des conseils. Et quant à vous les voisins et les voisines, vous nous contactez par téléphone pendant l'émission 33 1 84 22 71 71 ou bien par mail à 7milliards@rfi.fr ou bien en message privé sur les réseaux sociaux. Attention, hein, vous devez à chaque fois être capable d'exposer clairement votre projet, le défendre en face de Didier Akwété avec si possible un bon business plan. C'est le sésame pour aller voir un banquier.
De préférence.
Et d'ailleurs, en fin d'émission, Didier, vous nous expliquerez comment faire un plan de financement. Ça aussi, c'est extrêmement important. On va en parler pendant plusieurs émissions d'ailleurs. Hein.
C'est
plusieurs
vrai.
Chapitres pour écrire le roman fleuve du plan de financement.
C'est un vaste sujet.
Je vous redonne le numéro de téléphone, les voisins, les voisines. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
C'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique des talents avec Didier Akwété, le coach. Et nous prenons un premier projet. On est content parce qu'on a des voisines aujourd'hui. Il semblerait que notre message parfois passe. Ces filles entrepreneurs, bien sûr largement minoritaires partout dans le monde, hein, les filles entrepreneurs, chefs d'entreprise. Nous sommes en ligne avec Stella qui est à Bruxelles. Bonjour Stella.
Bonjour Emmanuel.
Et bien,
bonjour Didier.
Bonjour Stella.
Soyez la bienvenue Stella. Vous avez 32 ans, vous êtes à Bruxelles, vous avez grandi au Cameroun. Vous êtes ingénieur informatique, diplômé en France, vous travaillez dans le digital. Vous vous définissez comme une multi-entrepreneuse.
Oui, donc multi-entrepreneuse parce que ma philosophie, c'est de diffuser à travers différents secteurs d'activité mes connaissances.
Alors, vous avez été finaliste du programme Afropreneur, qui est un programme d'incubation en Belgique pour la diaspora africaine. Je ne sais pas si vous connaissez, Didier.
Il y en a
oui, beaucoup
de
des programmes.
Oui,
maintenant.
Il y en a de plus en plus.
Et d'ailleurs, tant mieux. Votre projet, Stella, ça s'appelle le succès des coiffeuses.
Tout à fait. C'est un projet qui vise à transformer les coiffeuses de la diaspora africaine, en fait, en entrepreneuses d'excellence, tout simplement.
Donc les fameuses coiffeuses, il y a un quartier à Bruxelles.
Tout à fait, c'est ça. C'est bien le quartier Matongé à Bruxelles.
C'est ça, c'est la rue des Tresses. Hein. Ouais.
Un ensemble de professionnels de la coiffure et de coiffeurs afro.
Pourquoi ce projet, le succès des coiffeuses? Quel est le problème et quels sont les besoins, surtout, pour vous?
Mais en fait, j'ai mené plusieurs observations pendant les derniers mois. Une observation qui a d'abord commencé par moi-même. Quand je suis arrivée à Bruxelles il y a 9 ans, j'ai eu du mal à trouver un environnement de confiance en termes de professionnels de la coiffure. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ce problème-là. Et la deuxième observation vient du fait que quand je discute avec les professionnels de la coiffure, donc les coiffeuses afro, je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de talent, mais qu'elles n'arrivaient pas forcément à gagner la confiance et le respect de leurs clientes. Et donc j'ai créé le concept du succès des coiffeuses pour rassembler, réunir les coiffeuses et leurs clients.
Donc concrètement des formations, du coaching aussi en vente, marketing?
Tout à fait, du coaching en vente, marketing, mais pas seulement, également un grand volet orienté sur le développement personnel, parce que j'ai vraiment la ferme conviction que si les coiffeuses arrivent à avoir confiance en elles et à gagner le respect dont elles ont droit de leur part de leurs clientes, eh ben, on se retrouve dans un monde idéal pour à la fois la cliente et la coiffeuse.
C'est un projet d'une entrepreneuse de la diaspora pour la diaspora. Dans le fond, en quoi c'est un projet pour l'Afrique, Stella?
Alors, pour moi, c'est un projet pour l'Afrique parce que la coiffure, on a de la chance, on l'apprend depuis l'enfance. On ne se rend même pas compte que ça peut être un débouché économique et d'indépendance financière. On coiffe les tantes, les cousines, les sœurs. Et pour moi, il faudrait que la femme africaine comprenne que même si c'est un métier manuel qui a l'air évident pour elles, parce qu'elles l'ont appris depuis toute petite, elles peuvent réellement en faire un débouché économique et d'indépendance financière. Mmh. Voilà.
C'est un projet qui pourrait être transposé ensuite, par exemple dans votre pays d'origine, le Cameroun, hein, c'est ce que vous visez, non ?
Oui, effectivement, donc mon pays d'origine c'est la République centrafricaine, mais j'ai très longtemps vécu au Cameroun et j'y suis née, et pour moi c'est un moyen de redonner un peu au Cameroun ce que j'ai reçu durant mon enfance.
Exactement. Alors, quelles sont les questions, les difficultés sur lesquelles vous butez à l'heure actuelle et sur lesquelles vous souhaitez dialoguer avec le coach à côté de moi ?
Alors en fait, j'ai deux principaux axes en fait, de difficultés. La première, c'est de dire comment est-ce que, vis-à-vis des coiffeuses, je peux être crédible et surtout montrer la valeur de ce que je propose. Parce que j'ai remarqué qu'elles se concentrent beaucoup sur la partie technique, mais elles ne se rendent pas compte qu'il faut aussi des connaissances business et entrepreneuriales pour réussir leur activité. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que je peux développer mon projet en Afrique subsaharienne. Quels sont les acteurs principaux à rencontrer ou à contacter ?
Très bien. Je réponds si vous m'offrez un shampoing et une coupe. C'est la condition.
Ça va être difficile. Je ne sais pas ce qu'il y aura à couper sur la tête de Didier à côté.
Il y a toujours un moyen de faire quelque chose.
Le coach n'est pas encore rasta pour le moment.
Alors non, c'est un projet intéressant parce qu'il peut se déployer vers d'autres domaines. Si on prend les artisans, les menuisiers, les plombiers, les maçons, les couturiers, les couturières, on peut tout à fait développer ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'effectivement, il y a un besoin de professionnaliser un certain nombre de métiers qui aujourd'hui sont faits de manière un peu artisanale. Et il faut savoir qu'en Afrique, autour de ces métiers, plus de 80% de ces formations sont faites sur le tas. Donc, les personnes qui exercent ces métiers n'ont pas de véritable qualification professionnelle. Et donc, c'est un enjeu. D'abord, à mon avis, il y a une nécessité de professionnaliser ces métiers qui, comme vous le disiez si bien, peuvent créer beaucoup d'emplois, créer des revenus et en faire des vrais secteurs d'activité. Mais pour cela, je crois qu'il faut qu'on arrive à créer ce qu'on appelle des associations professionnelles. Ça veut dire quoi ? Si aujourd'hui à Bruxelles, pour revenir à votre exemple, vous arriviez à offrir un espace professionnel pour ces coiffeuses en leur disant « Écoutez, aujourd'hui, vous exercez un métier, vous en vivez, etc. Mais vous pouvez mieux en vivre et mieux rassurer vos clients si vous acceptez d'adhérer symboliquement à une association de professionnels. »
Parce qu'on est d'accord que demander à des coiffeuses de payer pour se former, alors que leur business fonctionne déjà,
elles sont déjà professionnelles.
C'est pas du tout facile.
Elles sont déjà. Mais qu'est-ce que vous leur offrez en contrepartie ? Vous dites « je vais leur offrir des formations en marketing, en coaching ». Elles connaissent déjà leur métier, mais peut-être que le métier tel qu'elles le connaissent ou l'ont pratiqué a évolué. Donc l'idée, c'est de dire, aujourd'hui par exemple, vous avez des techniques ou des produits qui vous permettent de mieux travailler. Dans le cas de cet espace, nous vous ferons découvrir ces produits. Et là, vous pouvez faire venir des laboratoires, des sociétés qui fabriquent des produits pour les cheveux ou qui font des mèches ou des traits spécifiques pour faire évoluer l'offre produit. Parce que la coiffeuse vous répondra, je sais coiffer, vous n'allez rien m'apprendre. Et vous l'avez dit, je cherche la crédibilité. Deuxièmement, c'est le métier lui-même. Alors, si vous arrivez à trouver, vous lancez par exemple le prix de la coiffeuse de l'année à Bruxelles, et que vous arrivez chaque année à identifier une super coiffeuse ou deux super coiffeuses à qui vous remettez un prix, elles deviennent des références du secteur. Donc, lorsque dans le cadre de votre association, vous dites, les meilleures coiffeuses ou les meilleurs maçons ou les meilleurs électriciens du secteur vous conseillent, dans le cas de cette association, une fois par mois, vous commencez à leur dire « je suis entouré des meilleurs professionnels ». Un, des meilleurs professionnels qui sont dans le secteur, donc les produits périphériques liés à la coiffure, parce que ce n'est pas la coiffure elle toute seule qui répond, à mon avis, à votre problématique. Mais deuxièmement, j'ai des professionnels talentueuses qui sauront vous conseiller, vous orienter, dialoguer avec vous. Donc, la crédibilité passera par les experts dont vous allez vous entourer, professionnels, semi-professionnels et sociétés qui sont dans l'industrie, qui apporteront la valeur ajoutée à vos coiffeuses. Donc ça, c'est la question de la crédibilité.
Donc deuxième, on peut résumer question. En une phrase.
Entourez-vous de professionnels dans le cadre d'une association qui rassemble ces acteurs-là. Du coup, ils trouveront du sens quand ils viendront ou quand ils viendront dans cet espace pour prendre de l'information, recevoir du coaching et des formations. Sur l'Afrique, c'est la même idée en réalité, parce que le problème est encore plus...
Il y a encore moins de nécessité pour les coiffeuses d'aller financer leur formation pour apprendre à tresser et à coiffer.
Non, surtout vu ce qu'elles gagnent en termes de revenus.
Donc le modèle économique, là, il est complètement à inventer pour créer des besoins de formation auprès des coiffeuses.
Alors, même chose. Je l'ai dit, beaucoup ont appris sur le tas. Et beaucoup sont dans des bouibouis. Et parfois, vous entendez des femmes se dire « Ah, j'ai eu les cheveux brûlés. Ah, j'ai bref, j'ai passé des heures. » Bref, parce que ce ne sont pas des vrais professionnels. Elles ont appris sur le tas. Comme lorsque vous emmenez votre voiture chez le mécano, la voiture revient avec encore plus de panne parce que c'est un bricoleur. Il se débrouille. Donc, si vous lancez un processus de regroupement, voire même de certification, ça va rassurer des clients. Vous dites à des coiffeuses, lorsque vous venez dans ce centre ou dans cette association, mais il faut faire beaucoup de porte-à-porte, hein, et c'est pas elles qui vont payer, à mon avis, dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, si vous trouvez des professionnels du secteur, donc des sociétés qui proposent des produits pour les cheveux, qui vendent des mèches, etc., des shampoings, ces professionnels-là, ces sociétés sont intéressées si elles peuvent retrouver dans un même espace celles qui exercent le métier et qui vont recommander ces produits à leurs clients. Donc c'est eux qui vont payer, c'est pas les coiffeuses. Donc simplement vous, votre mission c'est de vous dire, j'ai une ambition qui est de dire je veux professionnaliser un secteur, donner du job, donner plus d'opportunités, mais comment je le structure? En essayant de rassembler autour de ces acteurs ceux qui font le métier, aussi bien les produits que les femmes utilisent, que ceux qui ont une expertise dans le domaine et qui peuvent même certifier ces coiffeuses qui, devant leur petite boutique, pourront mettre certifié association de Stella.
Stella, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que, en étant honnête, comme je disais au départ, le besoin est venu de moi parce que je ne trouvais pas la bonne coiffeuse. J'ai voulu créer un label de qualité.
Oui, mais et attendez, donc, quand même, si j'ai bien compris, vous comptez gagner de l'argent avec ce projet. Vous êtes une entrepreneuse.
Exactement.
Moi, je ne vois pas très bien comment Stella va gagner de l'argent, que ce soit d'ailleurs au Cameroun quand elle va exporter son concept, comme pour le moment à Bruxelles.
Non, elle peut gagner de l'argent. Si vous voulez, si demain, vous réunissez 600 coiffeuses à Bruxelles, que vous avez l'association avec ces coiffeuses avec qui vous développez une relation de partenariat, vous allez voir que ceux qui ont envie de vendre leurs produits à ces coiffeuses viendront à vous en vous disant « Tiens, vous avez accès à cette cible de clientèle qui nous intéresse, nous sommes prêts à payer pour venir faire des démonstrations de nos produits, offrir des produits, des échantillons, etc. »
Non mais je vous parle donc, finance là, Didier.
Non mais non, c'est ce que je dis, donc elle se fait payer par ces entreprises, mais parce que c'est pas les coiffeuses qui vont
qu'est-ce qu'on peut imaginer là comme vous avez déjà commencé à imaginer des tarifs, Stella, qui seraient acceptables pour à la fois pour les coiffeuses, pour les marques?
Du côté des marques, ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore pensé. Mais par contre, pour les coiffeuses, j'ai commencé à faire des formations et j'envisageais des journées de formation, en tout cas côté Bruxelles, à 97 euros où je brosse
97 euros.
Journées.
Ouais, la journée. Wow.
Bon, ça, je connais pas le marché, donc je peux pas répondre sur le si c'est cher ou pas cher. L'autre élément dans votre business model, c'est que si vous arrivez aussi à dire aux coiffeuses, attention, je peux vous donner accès à une clientèle que vous ne connaissez pas parce que je vais avoir une plateforme en ligne où toutes les personnes qui veulent aller se coiffer peuvent venir se pluguer et choisir la coiffeuse qui arrive en tête de liste ou parce qu'elle est bien classée. Ces clients-là, quand je vous les réfère, bah vous me reversez 10% ou 15%.
Voilà, le TripAdvisor des coiffeuses.
Sur ce que vous facturez. En fait, vous êtes en train de créer, entre guillemets, de structurer un business qui n'est pas structuré. Donc, autour de ça, vous pouvez imaginer
plein
de produits dérivés, exportables,
bien
entendu.
Votre objectif, Stella, c'est de démarrer ensuite le projet au Cameroun et de développer aussi à terme l'activité en Afrique du Sud, où j'imagine que le marché est beaucoup plus structuré. Mais c'est vrai que ça fait un moment, Didier, qu'on a longtemps dit qu'il faut que le secteur informel sur le continent africain devienne formel. Puis on se rend compte qu'en fait, l'économie, il n'y a pas forcément intérêt. Mais par contre, professionnaliser le secteur informel, ça, c'est une piste de plus en plus intéressante.
Bah, c'est essentiel. Parce que si les gens veulent vivre d'un métier et en faire un vrai business, il faut qu'ils soient professionnels. Et tant qu'il y aura des femmes, il y aura de la coiffure. Donc, Stella, vous avez un créneau fabuleux, là.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour les conseils.
Très bonne journée à vous, Stella, et bonne chance à Bruxelles.
Merci
et puis ensuite
beaucoup.
Au Cameroun pour le succès des coiffeuses.
Et j'attends mon billet pour mon shampoing.
J'oublierai pas.
Le coach, vous restez avec nous. Prochain projet, elle vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour, Adija.
Bonjour.
On va vous retrouver tout à l'heure. Vous êtes sénégalaise, diplômée en France avec un projet de e-commerce. Ça sera juste après Walk It Off chez 7 milliards de voisins. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do, cha. Walk it off, run, walk it off. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do, cha. Walk it off, run, walk it off, run. Instead of shaking like a shitty dog or losing your tooth, dude, rather than the rap and go spitting that boost. Anything can happen when you're feeling unusual. Better to be happy than be plastered and bruised. Ya shara sano kodoro kifuko. Tas mama kamnado ketchup vituko. Takwache mara kama mnyororo amilupu. Hakika giza totoro ndo ishara mapamba zuko. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do, cha. Walk it off, run, walk it off, run. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do, cha. Walk it off, run, walk it off, run. Walk it off and run in slow-mo. The cops on the hand, you got a hit in your so-called. The Pablos and the Nacos are formal. Bros like Warner, so the options are platter or plum. Hauna love back on my stasky. Na hauna thug love come on pocket. Nyumbanjao kisizi unapata zero. Dunia vichaa we hundo cheesy pia ni hero. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do. Walk it off, run, walk it off. It could have been ladies, it could have been beer, it could have been fighting, it could have been work, it could have been anything that you do, cha. Walk it off, run, walk it off, run. Choose, laughing and playing, cutting the vein. Lose, after you pray, trapped in the rain. Confused, after the pain, not in the game. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, du lundi au vendredi pour se parler du nord au sud et notre rendez-vous mensuel avec Didier Akwété, le coach pour montrer les talents de l'Afrique, les JPAG comme on dit maintenant, ça y est Didier prend des notes sur les projets que nous recevons. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Encore une petite colle Didier, les JPAG, ça veut dire donc...
Oh mais vous le connaissez bien.
Les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent,
voyons.
après le succès des coiffeuses qu'on avait au début de l'émission avec Stella, une entrepreneuse qui est à Bruxelles et qui veut exporter son projet sur le continent africain. C'était vraiment un projet diaspora avec des avantages pour les talents du continent africain. On donne la parole à Khadija qui est venue nous rendre visite. Bonjour Khadija.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Je suis aussi ravie.
On est content d'avoir une voisine entrepreneuse. Et en plus, elle est de passage à Paris. Alors, vous êtes en fait sénégalaise, vous vivez en France hein, pour
oui.
le moment. Vous avez 24 ans, Khadija. Vous avez fait des classes préparatoires à Dakar.
Oui, exactement.
Maths, physique, sciences de l'ingénieur. Diplômée d'une école d'ingénieur en France.
Oui, à Paris, ESIEA, ouais. Donc depuis 2017.
École supérieure d'informatique, électronique, automatique. Vous voyez, Didier, vous dites qu'il n'y a pas assez de jeunes dans la technique et pas assez de filles dans la technique. Vous en avez une en face de vous pour développer l'Afrique. Vous travaillez actuellement pour EDF dans les systèmes d'information, oui. mais vous êtes venu nous parler du projet qui vous tient à cœur. Alors, il n'est pas encore très développé, il n'y a pas de business plan.
Alors là,
le coach, il n'aime pas quand il n'y a pas de business plan.
Il y a le business plan qui est commencé, je peux vous le montrer.
Votre projet, c'est un projet qui vous tient à cœur parce que c'est pour revenir dans votre pays d'origine.
Oui.
Sen Everywhere, le Sénégal partout, c'est un site de e-commerce.
Oui, donc c'est un site de e-commerce qui vise à vendre des produits locaux sénégalais un peu partout dans le monde. Donc faciliter l'acquisition de ces produits par toutes les personnes de la diaspora et aussi par toutes les personnes qui désirent découvrir la culture sénégalaise.
Ça démarre tout juste et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est familial. C'est votre maman qui fait les colis à Dakar. Hein.
Oui, c'est ma maman aidée par mon frère. Donc elle prépare les colis, elle me les envoie en France.
Alors qu'est-ce que vous envoyez exactement?
Le catalogue est vraiment varié. Donc il y a les produits alimentaires, Il y a des produits vestimentaires, il y a des produits cosmétiques. Donc pour les produits alimentaires, ce sont des produits typiques sénégalais, comme un fruit qui s'appelle le mad, donc qui n'est pas bien connu.
Vous connaissez Didier ?
Ah bah bien sûr.
Ouais. Donc voilà, le mad.
Ça ressemble à quoi ?
Donc c'est...
Certains y ajoutent même du piment parfois, non ?
Oui, on rajoute du piment, c'est épicé. Il y a une partie épicée, il y a une version aussi qui est sucrée. C'est acide quand même. Donc ce sont des graines acides un peu jaunes. Qu'on mange comme ça.
Que vous envoyez frais, que vous transformez, que vous envoyez en jus en...
On les transforme légèrement pour la conservation. Donc on rajoute de l'épice pour les clients qui veulent épicer et on rajoute du sucre pour les clients qui veulent sucré.
Je crois que c'est comme une cosse de cacao en fait.
Oui, qu'on casse
et à l'intérieur
il y a des graines.
Voilà. Personne m'a proposé du mad.
Donc c'est du mad, ça s'écrit M-A-A-D, sénégalensis.
Bon, la prochaine fois que je vais à Dakar, je veux tester absolument. Alors en fait, votre projet, il démarre tout juste. Il a démarré avec un coup de chance. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez fait un petit carton là au Canada auprès de notamment la diaspora sénégalaise.
Exactement, qui se trouve à Montréal.
Et en fait, ça a démarré comme ça, sans préparation, sans business plan, sans avec vos fonds propres aussi. Hein, je crois que vous avez mis quand même 4 000 euros
exactement.
À la base.
Exactement.
Et puis là, maintenant, bah, vous savez plus où vous en êtes finalement.
Oui, le projet a démarré.
Vous avez 50 commandes au Canada.
Il y a une cinquantaine de commandes. Il y en avait même plus. Donc j'ai pas pu tout honorer parce que c'était un coup de chance, je me suis dit pourquoi ne pas tester. Donc j'ai testé et ça a marché, mais je voulais pas vraiment ramener beaucoup parce
comment
que c'était la première fois.
Ouais.
Donc c'était un risque parce qu'il y a un coût derrière.
Et puis une douane aussi. Hein.
Ça s'appelle oui, non mais ça s'appelle le business
c'est
aléatoire.
C'est du travail aussi.
Donc il fallait faire un test.
Ouais.
Pour toute chose, il faut faire un test. Donc je me suis dit que je vais tester avec une cinquantaine de produits et voir comment ça allait se passer. Et ça s'est bien passé avec l'aide de Dieu. Et voilà.
Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes finalement ?
Aujourd'hui,
ça se formalise.
Exactement.
Que donc, le coup d'essai, que le coup de chance devienne un vrai business.
Exactement. En France, j'ai pu développer, il y a un réseau qui est derrière Sen Everywhere. Donc j'ai pu me faire une notoriété, on va dire, avec les clients qui sont basés en France. Je leur livre des produits, ils connaissent les produits, surtout les Sénégalais qui résident ici. Ils connaissent bien les produits, donc ils n'hésitent pas à passer des commandes. Donc, il y a le besoin de structurer la société.
Ouais, en même temps, à Paris, les Sénégalais, ils ont pas mal de possibilités pour obtenir des produits sénégalais.
Voilà.
Mais quelles sont vos questions aujourd'hui à Didier ?
Comment mieux structurer la société, donc en allant du business plan, tout bien élaboré, parce que franchement, je l'ai fait, c'était sur un coup de tête, et je n'ai pas suivi les étapes qu'il faut suivre pour la bonne réalisation du projet. Même si j'ai fait l'étude de marché et l'étude de faisabilité, je me suis arrêtée à ça. Donc, vos conseils sont les bienvenus.
Alors, ça peut nous prendre du temps, Khadija, parce que c'est quand même un
projet. C'est intéressant, un business qui naît comme ça. Alors, évidemment, elle a mis le doigt sur un vrai besoin, en tout cas, un vrai désir de certains membres des diasporas d'obtenir, via le e-commerce, des produits locaux de chez eux. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on voit que ça marche ?
Bah, beaucoup de projets naissent comme ça. On fait des tests, ou alors, avec la famille, on se retrouve à livrer un produit. Mais tiens, finalement, les gens en veulent et les gens en demandent. Alors, dans ce genre de business, il y a clairement trois aspects qu'il faut garder vraiment à l'esprit.
Oui.
Premier aspect, c'est l'approvisionnement. Vous êtes en train de promettre à des clients potentiels des produits qui ne sont pas ici,
oui.
qui viennent de loin. Donc, il faut vous assurer de votre capacité à avoir ces produits en temps et en heure pour les clients qui vont en ligne. Deuxièmement, c'est un vrai métier de logistique. Et une fois que le produit est disponible, comment vous gérez la logistique pour que ça arrive jusqu'au client, que le produit ne soit pas périmé, parce qu'il y a des produits alimentaires, donc ça c'est un peu plus délicat. Et puis troisièmement, une fois que vous avez assuré ça, le paiement est en fait la garantie de la bonne fin de l'opération, comme on dit. Aujourd'hui, vous le faites de manière informelle. Mais d'abord, est-ce que à Dakar, vous avez donc votre frère ou la famille qui peut s'assurer que les produits que vous allez proposer en ligne seront disponibles, donc avec des partenaires qui vous assureront la livraison des produits dans les temps à un prix convenu. Parce qu'imaginez par exemple le prix des MAD. Vous vous dites, voilà, je le vends à tant de CFA, à tant d'euros en ligne,
oui.
et puis il s'avère que le produit vient à Dakar, vous n'en trouvez plus ou que le prix a doublé. Comment vous faites la promesse ? Donc, c'est très important sur place d'arriver à ce que votre équipe petite s'assure qu'elle a les partenaires, les fournisseurs de ces produits qu'il faut pour qu'ils puissent
Sur fournir les produits.
Donc pour l'approvisionnement, donc je travaille avec les producteurs locaux parce que je veux aussi aider à développer aussi l'économie sénégalaise. Donc pour l'approvisionnement, il n'y a pas ce souci parce qu'avec ma famille qui est basée à Dakar essentiellement, ils peuvent s'approvisionner directement chez les produits locaux.
Avec la régularité et les prix acceptables.
Avec la régularité et les prix acceptables.
Pour vendre à 2000 personnes ou 3000 personnes.
Pour l'instant, on va dire pour vendre à 1000 personnes.
ça, c'est un chiffre au pif.
Vous voulez dire quel manque d'ambition?
Non. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, sourcer des produits pour 50 personnes et pour 1000 ou 2000, c'est un modèle complètement différent. Donc, c'est simplement pour que vous ayez ça à l'esprit, quand vous passez à une phase de business réel que vous retrouvez avec 200 commandes du même produit, alors vous avez prévu pour 20.
J'ai pensé à tout cela, et comme je suis issue de la Casamance, donc qui est la zone où...
Ah bah, fallait le dire tout de suite, bien sûr, le grenier.
Voilà, là où les mades sont cultivées. Donc,
bon, ça c'est pour les mades, mais il y a des produits vestimentaires, il y a un peu de tout.
Alors, le premier point,
quoi,
donc c'est la difficulté, c'est l'approvisionnement. Les deux autres points, Didier,
c'était la logistique.
Comment vous gérez la logistique?
Actuellement, donc, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ma mère qui prépare les colis. Donc les produits, on essaie de les transformer pour permettre la conservation. Mais aussi, on ne veut pas détériorer le goût, on ne veut pas ajouter des additifs. On cherche du naturel, on veut garder ce goût naturel que le client va apprécier.
Donc, et vous avez un partenaire avec une société de transport?
Ma mère, qui est maîtresse d'économie familiale, donc elle évolue dans la transformation des produits alimentaires avec l'aide de... C'est une association qui forme les femmes à transformer les produits alimentaires. Donc elle sait comment mettre les produits dans les pots qui conviennent,
le conditionnement
et me l'envoyer. Donc pour ça, j'ai fait beaucoup de tests avant d'envoyer beaucoup de produits. Donc
et pour l'instant, vous n'avez pas de difficulté quand vous livrez les clients?
Pour
pas
l'instant.
Non, mais si on voyait comment, quand vous avez 1000 commandes demain, si on voyait comment, vous avez, je sais pas, quelqu'un, un opérateur comme DHL ou FedEx ou l'équivalent. Oui. Qui s'assure que le produit part bien de Dakar chaque jour et livré ici, c'est juste ça en fait. Et la logistique locale.
Les produits arrivent par gros porteurs, les gros porteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les gros porteurs, ce sont les GP, donc les femmes qui transportent des produits du Sénégal vers la France. C'est un système qui existe.
Oui, c'est un système qui existe. Il faut juste vous assurer que le côté aléatoire de votre business... Vous l'enlevez dans le modèle.
Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils pour voir comment aller voir les compagnies aériennes pour faciliter ce transport de produits.
Alors, il faut prendre des profils du transport, à mon avis, parce que votre business, ce n'est pas du transport. C'est d'approvisionner des clients en produits qu'ils souhaitent. Donc, si vous arrivez à trouver un professionnel avec qui vous négociez les bons tarifs, une fois que votre produit est empaqueté, le reste... Vous n'avez plus de soucis à vous faire.
Exactement.
Ils viennent prendre dans le labo ou à la société et ils livrent ici. Vous ne faites que le suivi. Et le client lui-même peut faire le suivi aussi en ligne comme on fait. Quand un pli part de Johannesburg ou de Dakar, vous pouvez faire le suivi du pli ou du colis en ligne. Donc ça, c'est très important. Le paiement. Donc vous faites des paiements en ligne?
Oui, exactement.
Directement?
Oui.
D'accord.
Donc les paiements en ligne sont disponibles.
Très bien. Et ici, à Paris, vous aurez la deuxième question directement en termes d'organisation. Donc vous créez une société à Paris et une société à Dakar.
Exactement.
D'accord. Et qui gère la société à Dakar, à Paris? C'est juste un centre de promotion, de marketing,
voilà,
ici,
donc c'est
un peu de SAV.
La structure à Paris qui va gérer tout ce, le côté marketing, le côté communication, et aussi coordonner avec la structure qui est à Dakar pour vérifier que le stock est bien disponible, qu'il y a vraiment le réapprovisionnement, et en fonction des saisons aussi, qu'on ait les produits qui conviennent, et aussi mettre à jour le site en même temps. Donc c'est la structure qui sera à Paris qui va gérer cela.
Très bien. Quand je parlais du système de paiement, en fait, c'est la plateforme en ligne qui sera extrêmement importante.
C'est vous qui l'avez créée, la plateforme en ligne, Khadija, vu que vous êtes informaticienne.
J'ai développé le site avec l'aide de Wix. Donc c'est un site qui permet de faciliter le développement des sites e-commerce ou même des blogs. Donc j'ai fait en sorte, au début c'était des paiements par PayPal ou en espèces. Et après j'ai plus régularisée et j'ai pu avoir les paiements par carte bancaire, donc pour faciliter la vie aux clients.
Très bien, ok. Non mais c'est attention, c'est du e-commerce, hein,
bon,
ça se développe.
Elle n'est pas toute seule, hein, ceci dit, sur ce marché-là quand même, du e-commerce.
Il y a du monde.
Continent africain et diaspora.
Il y a effectivement de plus en plus de monde. Hein.
Alors vous y croyez
pour
ou
aller
pas
comme on dit, la vente en ligne se développe, les consommateurs ont besoin de produits d'origine, donc tous les segments sont possibles. Après, c'est l'ouverture que vous faisiez, il y aura de plus en plus de compétition sur ce marché-là, et qu'est-ce que vous apporterez comme valeur ajoutée en plus, en dehors du fait que je commande un produit que je livre, qu'est-ce que je crée comme univers autour qui fait que mes consommateurs, mes clients vont être beaucoup plus fidèles à ma plateforme qu'à d'autres. C'est certainement ce qui va faire la différence entre toutes ces plateformes en ligne de produits, quels qu'ils soient, même de produits d'art. On en a vu pour des produits
un
d'art.
Un dernier conseil à Radija.
Ah bah il faudra quitter votre boulot rapidement si vous voulez en faire de votre projet un vrai business et y consacrer 24 heures de votre journée.
Et en
journée.
Même temps, c'est grâce à ce boulot que vous avez que vous avez pu mettre des fonds propres hein, pour faire progresser l'entreprise. Merci à vous Radija d'être venue nous rendre visite chez
cette
milliard de voisins.
Merci.
On vous souhaite bonne chance.
Radija.
Vous nous tenez au courant. Hein.
Bien sûr.
Très très bonne journée et je rappelle le nom de ce projet, le Sénégal partout, Senevriware. Donc du e-commerce avec des produits locaux sénégalais, aussi bien de la mode que de l'agroalimentaire, des produits frais, disponibles sur un site internet, au Canada d'ailleurs comme en France. On se retrouve juste après Give Your Love. On donnera la parole à Clétus qui est à Lomé au Togo. Un projet de plateforme digitale pour le suivi des femmes pré- et post-natales. Vous restez avec nous, le coach Didier à côté, 7 milliards de voisins. You know I'm cool. I've passed and I think for the best. Time goes by and the truth collapse. Even yours, my guy, but I got your back. You think you're just on your own. All the things you got are gone. Your heart is still in the eye of a storm. But you gotta move on. Gotta be sur RFI. Nous avons la visite du coach Didier Akouété. Il vous écoute, il vous conseille concernant vos projets pour le continent africain. On donne la parole maintenant à Clétus qui est à Lomé au Togo. Bonjour Clétus.
Bonjour.
Clétus, vous nous appelez à notre standard 33 1 84 22 71 71. Vous êtes ivoiro-togolais, vous êtes informaticien de formation, vous avez une licence en génie logiciel à Lomé. Vous êtes aujourd'hui un entrepreneur du digital, un tech entrepreneur, comme on dit, vous gérez plusieurs plateformes. Votre projet récent s'appelle Mom, comme maman. C'est une plateforme digitale de suivi des femmes pré- et post-natales. Comment ça fonctionne rapidement, Clétus ?
La femme s'inscrit, elle met son numéro de téléphone.
Donc, une femme enceinte, elle s'inscrit sur votre site ?
Oui, elle s'inscrit sur la plateforme, en cours du SSD ou dans une clinique.
Elle paye au moment où elle s'inscrit sur votre plateforme ?
Elle paye 1 franc pour l'année, en fait. La durée de la grossesse, oui. Elle met l'âge de la grossesse ou l'âge de l'enfant. Et tout de suite, elle a enregistré dans la base de données du monde. Donc, ensuite, la plateforme elle-même, en fait, rappelle automatiquement cette femme.
Alors, elle remplit un questionnaire, hein, Clétus, soit d'ailleurs en français, soit en éoué, soit en gabillé, c'est bien ça ?
Exactement. Donc, elle choisit une langue maternelle. Donc, une fois qu'elle est inscrite, tout de suite, la plateforme prend tout en charge. Donc, elle reçoit soit des SMS ou elle reçoit des appels vocaux en langue maternelle si elle ne sait pas lire. Donc, on l'appelle l'état de vaccination, le lieu proche d'elle où elle peut y aller ou soit en lui donnant en fait des conseils.
D'accord.
En fonction de là,
d'accord. Donc, elle reçoit des rappels de rendez-vous, des rappels de date de vaccin, etc. via des SMS. Parallèlement, vous proposez aussi des contenus pour les agents de santé, c'est bien cela ?
Oui, exactement. Les informations qu'elles obtiennent ne sont pas récentes, en fait. Donc, du coup, on a partenariat avec une ONG qui fait en fait des contenus vidéo sur les pratiques, sur comment on fait les trucs que nous mettons à leur disposition. Donc, elles pourront...
D'accord, pour aider les sages-femmes à sensibiliser les femmes, hein, c'est ça ?
Exactement.
J'ai pas bien compris votre modèle économique, Clétus, en fait. Alors, les femmes payent l'équivalent d'un euro 50 000 francs CFA quand elles s'inscrivent sur cette plateforme, donc une somme relativement accessible. Mais ensuite, comment l'argent rentre ?
Nous ne gagnons réellement pas, ça nous permet juste de payer les charges. C'est carrément du social. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, en fait, à pouvoir aider ces femmes-là.
D'accord, c'est pour ça que vous êtes en partenariat avec une ONG. Pour l'instant, il y a combien de femmes qui sont inscrites sur cette plateforme MOM ?
200 femmes qui sont en train de tester, en fait, la plateforme. Puisque le lancement officiel n'est pas encore en cas, nous sommes plutôt en train de tester dans cette
Vous êtes en phase de test, d'accord.
Donc,
vous avez donc des cliniques partenaires. Vos questions, concrètement, à Didier Akwété ?
Ma première question, c'est de savoir comment avoir des subventions de la part des organismes internationaux pour nous aider vraiment dans ce secteur-là.
Vous avez déjà approché des organisations des Nations Unies en charge des femmes, des enfants ou des populations, ONU, femmes, FNUAP, aujourd'hui ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Bon, donc si vous ne les avez pas approchés, c'est difficile déjà d'avoir un financement.
Il y avait une autre question aussi ?
Actuellement, nous traitons directement avec les cliniques. Comment atteindre rapidement notre site ? Sans passer réellement par les cliniques. Il y a une solution, il y a une idée.
Votre cible, c'est les femmes et elles payent déjà un droit d'entrée sur la plateforme. Donc vous souhaitez en fait augmenter ces droits d'entrée, si j'ai bien compris, pour atteindre...
Accéder aux femmes plus facilement, sans passer par les cliniques et les hôpitaux.
Accéder aux femmes, en fait.
D'accord.
Aller directement à la cible.
Mais vous comptez gagner de l'argent auprès des femmes ou ça va rester un projet social humanitaire ?
C'est un projet social humanitaire.
Didier Akwété.
Toutes ces plateformes électroniques et techno dans le secteur de la santé, de l'éducation vont changer beaucoup la donne parce qu'il y a un problème d'accessibilité d'abord au choix et aussi de distance géographique qui rend difficile le suivi et le traitement. Et il y a effectivement des organisations internationales qui traitent des questions de la santé, que ce soit l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour les populations, qui effectivement, généralement, ont des ressources pour réduire le taux de mortalité en termes de naissance. Parce que vous, ce que vous recherchez, ce n'est pas simplement le suivi des femmes avant qu'elles n'accouchent, c'est pour faire un suivi pour réduire le taux de mortalité infantile et aussi que les femmes puissent aller au terme de leur grossesse en s'étant assurées que le bébé et la maman vivent dans des conditions qui permettent d'arriver au bout du cycle. Donc, si vous prenez la question sous un angle de santé publique, de santé de l'enfant, enfin du nouveau-né et de la femme, vous commencez à intéresser des organisations internationales qui sont sur ces sujets-là. Après, la plateforme telle qu'elle est développée, puisque dans ce que vous dites, il n'y a pas besoin d'Internet, et on peut avoir ces informations hors connexion, etc. Donc, il y a une facilité d'accès à l'information une fois qu'on s'inscrit sur la plateforme. Et là, ça rejoint la deuxième question, c'est que sur ce genre de produits ou de services, il y a énormément de communication qui est faite par ces organisations. Donc, si vous arrivez à créer un partenariat avec... certaines de ces organisations, elles vont porter en réalité la communication autour du projet pour accéder aux femmes. Parce que vous avez les femmes qui sont à l'intérieur du pays. Évidemment, dans le business plan, vous décrivez le nombre de grossesses, de naissances dans chaque région. Et vous savez bien que dans certaines régions, c'est très difficile d'avoir Internet. Donc, on peut même pas compter sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une question de proximité qu'il faudra assurer aussi auprès de ces populations. Et là, vous retombez naturellement dans le réseau des ONG qui ont cette proximité, dans le réseau des dispensaires publics, des hôpitaux publics, qui sont bien sûr aujourd'hui aux prescripteurs. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, un projet de ce type, il a un caractère fortement social. Donc forcément, le coût d'entrée pour les femmes doit être idéalement le plus faible possible, à défaut d'être subventionné par ce qu'on dit souvent des laboratoires, des sociétés pharmaceutiques qui ont besoin aussi de proposer leurs produits ou des labos qui font des vaccins à ces populations. Donc, ces labos sont vos financeurs possibles et ces organisations internationales sont vos sponsors également possibles si le produit répond effectivement à un de leurs objectifs qui est de réduire la mortalité
infantile. Quelle place pour les hôpitaux publics et les places de santé et les centres de santé dans l'histoire ?
Alors, ce sont ces prescripteurs, comme il dit. Aujourd'hui, évidemment, je vois mal un hôpital payer la prestation, parce que déjà, quand vous êtes dans l'hôpital, même le coton, vous n'en avez pas, l'alcool, vous n'en avez pas, donc je ne vois pas l'hôpital payer. En revanche, le partenariat avec les hôpitaux peut permettre aux hôpitaux d'informer les femmes que ce service existe, et il faut que l'hôpital trouve un intérêt à faire aussi l'opération. Et c'est peut-être là où notre ami, le fait de se mettre en partenariat avec des laboratoires, etc., en disant, eh ben, je suis en partenariat avec des labos qui peuvent vous donner des produits
gracieux. On est bien dans un projet d'entreprise sociale avec MUM. Au Togo, il n'y a rien qui existe sur ce segment-là. Il y a des projets similaires qui ont été développés, je crois, au Sénégal. Il y a un projet qui s'appelle Karangé sur la vaccination en
Non, il y a des produits similaires partout. Vous souvenez, quand on avait fait le concours des applications, il y avait eu beaucoup de projets qui sont arrivés. Quand je passe à Lomé, je rencontre des jeunes qui développent des applications pour des questions d'accès à la santé ou des vaccins. Bon, ils se passent tous le mot. Donc, mais c'est comment le faire vivre.
En quelques mots, que faut-il pour que Clétus parvienne à développer...
C'est un projet à caractère social où il a besoin de l'appui des organisations internationales qui œuvrent dans ce secteur. Donc le fait de se rapprocher des organisations des Nations Unies ou des ONG qui bénéficient du financement des organisations des Nations Unies pour les questions des femmes et de la mortalité infantile, Clotaire peut arriver à se pluguer sur ces organisations parce qu'il apporte une plateforme qui rend ce service-là. Deuxièmement, ces fameux labos, ces grandes sociétés qui font des produits pour les femmes qui sont enceintes et qui vont donner naissance à des enfants et des bébés qui vont utiliser ces produits sont intéressés par ces cibles. Et donc, la deuxième cible, ce sont ces sociétés, ces labos qui potentiellement peuvent être des sponsors parce que ça s'inscrit aussi dans le cadre de la responsabilité sociale de ces entreprises qui peuvent parfaitement voir dans ce projet un moyen de dire on fait aussi de la RSE et donc on finance le projet de Clotaire.
Clétus, vous êtes toujours à Lomé avec nous. En tout cas, pour l'instant, vous avez monté une équipe. Il y a 7 personnes. Vous-même, vous êtes développeur. Et vos objectifs, Didier à côté l'avait bien compris, c'est de faire baisser le taux de mortalité néonatale. Et à terme, vous souhaitez vous étendre ailleurs qu'au Togo. Mais la concurrence sera très rude. Vous avez entendu Didier qui vous disait que dans les concours d'application numérique, énormément maintenant de projets qui concernent la santé, le suivi de la santé via des applications numériques. Très bonne journée à vous, Clétus.
Merci
à vous, Clétus. À bientôt.
Bonne journée à vous, à Lomé. Les voisins, les voisines, ceux qui n'ont pas pu passer dans l'émission, je vous redonne notre numéro de téléphone parce que le coach vient régulièrement, toutes les 3-4 semaines dans l'émission. 33 1 84 22 71 71, c'est très simple. Vous nous appelez ou vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr pour nous parler de vos projets et si possible... C'est encore mieux si vous pouvez nous envoyer un business plan d'emblée pour ensuite dialoguer en direct avec le coach chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akwete.
Didier Akwete, je l'avais annoncé en début d'émission, la chronique de Didier Akwete. Alors c'est vrai que très souvent on a des conseils sur les business plans, mais là un chapitre ô combien crucial du business plan, c'est le fameux plan de financement. Comment faire un plan de financement? Trop souvent, le banquier est inquiet quand il lit ce plan de financement. Vos conseils, comment fabriquer ce plan de financement?
En résumé, le plan de financement, et on l'a plus ou moins abordé avec Khadija tout à l'heure, c'est l'évaluation de vos besoins et de vos ressources. Lorsque je crée une entreprise, je vais avoir des dépenses à engager, des dépenses tout de suite, et puis des dépenses à moyen et à long terme. Et puis en face, je vais avoir des ressources qui vont me permettre de financer toutes ces charges-là. Et malheureusement, dans les projets que nous recevons, et même dans les questions, la manière dont le plan de financement est structuré, on voit très mal deux éléments. Le premier élément, le type de dépenses qu'il faut financer et en face, le type de ressources qui va financer cette dépense. Pour résumer, Dans un projet, vous avez généralement dans la partie, on va dire ça, dépense, ce qu'on va appeler investissement. Donc l'investissement, c'est ce que vous allez mettre entre guillemets sur la table. Si c'est par exemple ce que Khadija est en train de développer à Dakar, je veux pouvoir livrer, quelle que soit la partie où mes clients se trouvent dans le monde, des produits made in Sénégal. Donc Khadija va investir dans un atelier ou un laboratoire qui va permettre de s'assurer que les produits arrivent frais, sont conditionnés et sont bien conservés jusqu'à Montréal ou jusqu'à Paris. Donc elle va avoir besoin de machines, peut-être de testeurs, d'un atelier, et donc ça c'est de l'investissement, et peut-être d'une voiture qui va aller chercher les produits en Casamance pour pouvoir les rendre disponibles dans son atelier ou dans son usine voilà. de transformation.
Et la fabrication éventuelle d'un site internet aussi, hein, qui demande donc, de la ressource. Ouais.
C'est vrai, mais je voudrais séparer ce qu'on appelle l'investissement qui est un peu lourd, qui
donc
en
là,
fait s'amortit sur la durée. Exactement, équipement, parce que souvent, ils ont besoin d'équipement, donc les infrastructures. Il y a même parfois des logiciels qu'on met dans les infrastructures qu'on amortit sur la durée parce que c'est un actif important du projet. Donc, l'investissement, qu'est-ce qui le finance ? Généralement, c'est ce qu'on appelle une ressource longue. Donc, en face, il faut mettre le type de ressource qui va financer l'investissement. Donc, si vous allez voir un banquier en disant « Je veux un crédit sur 3 mois pour acheter un camion qui va être amorti sur 5 ans », ça ne marche pas parce que très rapidement, vous allez voir qu'il y a un déséquilibre entre votre capacité à rembourser le crédit sur le camion qui a besoin d'une ressource longue d'un financement sur 3 à 5 ans, idéalement donc, qui est en phase avec l'investissement. Donc, premier point, la nature de votre besoin en termes de financement va conditionner également la nature de la ressource dont vous avez besoin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les besoins qui sont plutôt sur des cycles courts. Exemple, acheter du stock, Khadija par exemple, acheter des mats, ben, elle va en acheter toutes les semaines ou tous les 15 jours, ou elle va se faire livrer des vêtements ou les salaires que vous payez tous les mois. C'est des ressources, c'est des besoins qui sont sur des cycles courts et donc qui nécessitent aussi ce qu'on appelle la disponibilité de ressources en trésorerie pour permettre de faire face à ces ressources-là. Donc, quand vous concevez le plan de financement, c'est très important de distinguer ce qui est de l'ordre donc de l'investissement et qui a besoin d'une ressource longue, ce qui est de l'ordre du fonctionnement courant, qui est de l'ordre des ressources un peu plus courtes. Et généralement, c'est ça qu'on ne voit pas dans les business plans, et c'est ça mon deuxième sujet. Quand on structure un projet, donc un plan de financement, il y a ce que vous mettez sur la table, donc le capital. La banque ne va pas financer le capital. Non, c'est vous qui apportez la ressource, donc vous mettez en capital tout ce que vous avez. Et d'ailleurs, ça rassure la banque, parce que la banque se dit, ah, s'il met ses instruments sur la table, ça veut dire qu'il fait confiance à son projet. Ensuite, vous avez les associés qui peuvent apporter du compte courant. Donc, c'est plus du capital, mais c'est de la ressource qu'ils apportent sur une certaine durée et qu'on leur rembourse. Donc, ça s'appelle du compte courant. Et puis, vous avez ce qu'on appelle donc de la dette. Donc, c'est là que vous pouvez aller voir une banque en disant « J'ai mon capital, j'ai même mes associés qui ont mis du compte courant. Maintenant, j'ai besoin d'un peu de dette. Prêtez-moi un peu d'argent pour compléter cela. » Et puis après, vous pouvez jouer sur les fournisseurs. Lorsque Khadija reçoit ses produits, elle dit « Bon, je vous paye dans 30 jours. » Donc, ça vous permet, vous, d'être payé par vos clients pour payer vos fournisseurs. Donc, en gros, dépenses, ressources, donc ce que vous dépensez et ce que vous récupérez pour couvrir cela, quand on garde ça à l'esprit et qu'on sait qu'une ressource longue finance un besoin long, vous avez tout compris.
Voilà, c'est le nouveau feuilleton qui démarre. Comment faire un plan de financement grâce au conseil de Didier Akwété. Suite du feuilleton, la prochaine fois que vous venez coacher les jeunes avec leur projet pour l'Afrique qui gagne. Mais d'ici là, on se retrouve pour Afrique Talent le 6 avril prochain, très 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 bientôt. Donc, et là, on parlera des carrières en Afrique. Ce sera un débat avec des professionnels, des ressources humaines et bien sûr des cadres qui veulent booster leur carrière. Afrique Talent,
absolument.
Donc ça démarre. Le...
C'est à Paris le 6 avril.
À Paris, où exactement ?
Au Hilton. Mais il faut s'inscrire.
Exactement.
Hein, vous savez, comme
et on
d'habitude,
s'inscrit
c'est sur inscription,
le site.
Sur le site africtalent.com.
africtalent.com, à retenir. Merci les voisins, à demain.